Bonsoir Eduardo Alfon.
Bonsoir Sylvie.
Nous sommes aussi avec vous Stéphanie Pobeda, qui va avoir la gentillesse de nous aider dans la traduction de cette soirée. On se rencontre effectivement dans le cadre du festival Lettres du Monde. À la librairie Mola, nous sommes très, très heureux de vous accueillir. Vous avez fait une longue route pour venir jusqu'à nous.
Pas si long. De Berlin, c'est pas si long.
Non, c'est pas si long. Et en préambule, nous avons décidé que vous alliez lire les premières lignes de Tarantule en espagnol, que je lirai ensuite en français, en espérant être à votre hauteur. Je vous en prie.
Merci. D'abord, je veux remercier à tout le monde pour l'invitation, à tous et à toutes pour nous rejoindre. Alors, je parle français, mais je parle français pour boire un café. Et des choses littéraires sont difficiles. Nous avons Stéphanie ici pour m'aider. Je vais essayer de répondre en espagnol. Je veux lire en espagnol, mais je veux essayer de parler en français un peu. Et je suis très heureuse d'être ici. Il y a longtemps que je veux venir à Bordeaux et à Mola, spécialement à Mola. J'adore.
Nous sommes très heureux de vous accueillir.
Ah, merci. Je vais lire la première page du livre. C'est Tarantule en espagnol. Ça, c'est l'édition espagnole. C'est la même photo, mais coupée.
C'est ça.
Non, sans pied, le petit garçon, le petit soldat, comme je dis.
C'est ça, c'est Tarantula au lieu de Tarantule. On n'est pas très loin quand même, hein? C'est proche, on devrait se comprendre.
Oui.
Je vous en prie.
Alors, la première page, le début de livre. C'est ça. Alors, et la première phrase, je le pensais en anglais. Je le pensais en anglais. En anglais, c'est mieux qu'en espagnol. We woke up to screaming. On peut parler de l'anglais. Anglais, c'est la langue forte, mais j'écris en espagnol. C'est une situation très, très bizarre. Nos despertaron a gritos. Estábamos boca arriba en nuestros catres, dentro de la enorme carpa verde. Ninguno de los 12 se atrevía a decir algo. Ninguno osaba moverse en su saco de dormir. Volví la cabeza hacia el catre de al lado. En la luz opaca de la madrugada, encontré el rostro de mi hermano observándome de vuelta, preguntándome con la mirada qué estaba pasando allá afuera, qué significaban tantos gritos. Le respondí, también con la mirada, que no tenía ni idea. Pero de pronto los gritos se hicieron más fuertes e histéricos. Alguien se estaba acercando a nuestra carpa. Hubo un silencio breve, aunque sobradamente claro para detectar el llanto de uno de los niños en la parte trasera, antes de que tiraran a un lado la portezuela de lona verde y todo nuestro mundo se inundara de luz. En el umbral estaba la silueta de Samuel Bloom, nuestro instructor, nuestro amigo y protector incondicional. Pero ahora, uniformado de negro y con un garrote en la mano y lanzando alaridos y órdenes que ningún niño ahí entendía. En su brazo izquierdo, tardé en notar, caminaba una enorme tarántula.
Ils nous ont réveillés en criant. Nous étions couchés sur nos lits de camp dans l'immense tente verte. Pas un des 12 ne se risquait à ouvrir la bouche. Pas un n'osait bouger dans son sac de couchage. J'ai tourné la tête vers le lit d'à côté. Dans la lumière opaque de l'aube, j'ai trouvé le visage de mon frère qui, lui aussi, me contemplait, m'interrogeant du regard sur ce qui se passait dehors, ce que signifiaient tous ces cris. Je lui ai répondu, du regard également, que je n'en avais aucune idée. Et tout d'un coup, les hurlements se sont faits plus forts, hystériques. Quelqu'un s'approchait de notre tente. Il y eut un bref silence, assez marqué tout de même, pour que nous parviennent les pleurs d'un des enfants au fond de la tente, avant qu'on écarte le pan de toile verte qui tenait lieu de porte, et que notre monde se retrouve tout entier, inondé de lumière. Sur le seuil se dressait la silhouette de Samuel Bloom, notre instructeur, notre ami et protecteur inconditionnel, mais à présent vêtu d'un uniforme noir, une matraque à la main, éructant des cris et des ordres qu'aucun enfant allongé là ne comprenait. Sur son bras gauche, il m'a fallu un moment pour m'en rendre compte, marchait une énorme tarentule. Est-ce que écrire avec des éléments autobiographiques, selon vous, relève plus du témoignage ou donne une chance au passé ?
Je crois que les deux, c'est pas un témoignage. ce que j'écris, Sylvie, tous mes livres, non ? 17 livres en espagnol, 10 livres en français, sont basés, ils restent sur un petit point, un très petit point personnel, intime, autobiographique, non ? C'est une image, la plupart du temps, c'est une image, non ? C'est matin, non ? La photo que j'ai dans la tête de ce matin que nous sommes réveillés par des cris. Mais tous mes livres sont fiction. Ça n'est pas témoignage, ça n'est pas une autobiographie, ça n'est pas des mémoires, c'est un roman. Tu sais, comme on dit, fulcrum en français. Fulcro. Je suis un ingénieur. Désolé. Je parle comme un ingénieur. Fulcro. C'est le point sur lequel tout s'est balancé. Non ? L'équilibre, le point d'équilibre, le point de départ. Si ? Entonces, voy a hablar en español. Si ? Para mí es muy importante empezar con una imagen. On peut faire une petite phrase, si tu veux.
Pour moi, il est très important de commencer avec une image.
Avec une photo, tu sais, une photo. Et cette image a quelque chose de rugoso. Comment dire rugoso?
Cette image, elle a quelque chose d'un peu rugueux.
Si, d'attractivo, non? Algo me attrae de esa foto.
Quelque chose m'attire dans cette photo.
Si. Mais tout à coup, immédiatement, je le laisse. Et je commençais à voler, non, à abandonner ce punto autobiographique.
Et petit à petit, je laisse tomber ce point autobiographique.
Si.
Mais vous parlez dans votre livre d'une salle de la mémoire. Une salle.
Ah, si, une salle.
Et donc, comment fonctionne votre mémoire cet endroit-là
si.
Pour aller à la fiction après?
Je dis bóveda, una bóveda en espagnol. Salle.
Oui. Une salle voûtée. Oui.
Si, comme une banque. Bóveda. Bóveda, le mot bóveda, ça veut dire. C'est pas une salle. C'est
un espace.
Un espace dans une banque,
oui.
Bancaire,
oui.
Que c'est protégé. Si.
Vous parlez d'un espace du souvenir.
Non. Non. Comment on dit en français?
Bóveda, c'est une salle. Un coffre-fort.
C'est plus près.
Merci, monsieur. On est tout plusieurs à traduire ce.
Ça, c'est plus près.
Très dynamique, cette conférence.
Je ne sais pas si c'est le mot, mais bóveda en espagnol, c'est très spécifique. Non? Oui. Où tous mes mémoires sont gardées. Non? J'ai toutes ces photos, cette image dans cette salle ou cette coffre, un coffre.
Qui se réveille tout d'un coup, en fait.
Alors. Espagnol. Tarántula. Está basada en una experiencia real.
C'est basé, oui. Ça s'inspire d'un fait réel.
Cuando yo tenía 13 años, non, attends, je veux un peu après. Quand j'ai 10 ans, j'avais 10 ans, nous fuyons de Guatemala. Si? Huimos.
Nous avons fui.
Oui,
nous avons fui. Du Guatemala quand j'avais 10 ans.
Fui. Le mot, c'est très important. Nous avons fui de Guatemala avec mes parents pour la situation politique. C'est la guerre civile, et le conflicto armado, on dit en espagnol, qui a duré 36 ans. Et le jour de mon 10e anniversaire, nous partons. Nous fuyons.
On fuit. Nous fuyons.
Immédiatement, Sylvie, j'ai coupé Guatemala de ma vie. Je
l'ai lâché, je l'ai oublié.
J'ai lâché l'espagnol. Et je me agarré à l'anglais.
Et je me suis rattaché à l'anglais.
Facilement, très facilement. Pour un enfant de 10 ans, c'est très facile. Si je veux des amis, il faut parler comme eux, il faut m'habiller comme eux, il faut actuer comme eux, si. Et 3 ans plus tard, j'ai 13 ans, quand mes parents décidaient de m'envoyer au Guatemala. Pour reconnecter avec les pays, Guatemala, avec les pays, reconnecter avec l'espagnol, et spécialement pour reconnecter, c'est pas le mot, rencontrer le judaïsme. Trois choses que j'ai
mis de côté.
Si.
Est-ce que ça a marché?
Alors, ça c'est le début du livre. Ils nous ont envoyé à un camp. Un camp en français comme des scouts, si, un camp au Guatemala. J'ai 13 ans, l'âge c'est important parce que c'est un âge
entre l'enfance et la fin de l'enfance.
Exactement. Et pour un garçon juif, c'est l'âge très important. Oui, il nous a envoyé au Guatemala un camp juif pour enfants juifs dans la forêt, à la montagne, pendant la guerre. Les trois premiers jours, c'est normal. C'est un camp de promenades, de primeros auxilios.
Des premiers secours.
Donc, on apprend les premiers secours, des jeux avec les amis, tout normal. Le quatrième matin, c'est ça. Okay.
Il y a quand même une sacrée part de souvenirs dans ce livre.
Si.
Quand même.
Si. J'arrive. À la Bóveda.
On n'est pas pressé.
À la Bóveda. Oui, je sais, j'ai l'horloge là.
Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle va quand même passer très vite cette heure.
Je parle beaucoup, hein, je parle trop. Ok. Ce matin, je me rappelle, je suis dormi dans la tente, avec tous mes amis, mon frère, c'est à côté de moi. Et je me rappelle des cris, non, quelqu'un qui crie, mais je ne comprends pas la langue, je ne comprends pas pourquoi il est fâché. Et tout à coup, il tire à la puerta. Non,
il ouvre la porte.
Il ouvre.
Avec violence.
Avec violence. Il est là, la silhouette de Samuel Blum.
Et apparaît la silhouette de Samuel Blum.
De le moniteur, le directeur de camp, qui s'appelle dans le livre Samuel Blum. Mais il est habillé en noir. Il a une matraque. Et je me rappelle, une tarantule qui marche sur son bras gauche. Oui, gauche. Il me tombe, je vais changer espagnol, unos segundos, acostumbrarme a la luz, ¿sí? Y notar que lo que estaba en su brazo no era una... C'est pas une tarantule, mais un juagamé.
Il m'a fallu quelques secondes pour m'habituer à la lumière et donc comprendre que ce qu'il avait sur le bras, ce n'était pas une tarentule, mais une croix gammée.
Il est habillé comme nazi. Tous les moniteurs, ce matin, sont habillés de nazi. Et tous les enfants, nous sommes de prisonniers. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le début du livre. Ça, c'est le mémoire dans le Bóveda. De coffre, si
dans le coffre-fort.
Alors,
de votre mémoire,
oui,
Eduardo Alfonso.
Oui. Pour moi, la chose intéressante, Sylvie, c'est que cette mémoire avait été dans ma tête tout le temps. Mais il y a 3 ans que j'ai habité, que ça tournait en littérature. Jamais pensé que cette histoire, c'est un livre. Oui, c'est si incroyable. C'est trop incroyable. C'est trop demasiado irréel, non?
C'était trop irréel.
Je me rappelle quand je donnais le manuscrit à Alice Déon de la Table Ronde. Si? Elle m'a dit, c'est ma première lectrice toujours, avant que l'espagnol. Oui. Elle m'a dit, Eduardo, personne ne te va croire pas. Ne va te croire. C'est trop incroyable, cette histoire. Je dis, mais ça passait. Alors, mais la mémoire. J'ai à Berlin. Je suis arrivé à Berlin il y a 4 ans avec une bourse. Je suis invité pour passer un an à Berlin pour écrire. Et je raconte cet épisode dans le livre.
Oui.
Le jour. Quoi, en espagnol. El día que saco esa memoria de la bóveda.
Le jour où, où je sors ce souvenir du coffre-fort.
Sí. Y me doy cuenta de que hay algo rugoso en esa foto.
Je me rends compte qu'il y a quelque chose d'un peu rugueux dans cette photo.
Vale la pena escribirla.
Ça vaut la peine d'écrire quelque chose.
Sí. Tomó Berlín para que yo me diera cuenta de eso.
Il a fallu que je sois à Berlin pour me rendre compte de cela.
Oui. Oui. Tarantule, c'est un livre berlinois.
Mais est-ce que c'est difficile d'inventer une suite à quelque chose qui est aussi fort à vivre? Est-ce que c'est difficile d'imaginer autre, de sortir du réel?
Non, c'est mon métier. Ça, c'est mon métier. Ça, c'est le métier de l'écrivain, non? C'est pas difficile, c'est pas facile, c'est le métier. Alors, je te dis encore, avant, que je suis un ingénieur. Je fais mes études d'ingénierie. Je jamais lis. Jamais. Comme enfant, comme adolescent, j'étais le petit garçon de maths. Je suis l'ingénieur. Et je suis très ingénieur dans la vie. Trop. Trop. Neurotico.
C'est quelque chose de névrotique.
Oui. Pas quelque chose. Beaucoup de choses. Non? Sauf quand j'écris. Oui? Quand je suis en train d'écrire quelque chose, je sais rien. Rien. Sauf cette photo. J'ai l'image. Je décris l'image. C'est la première page du livre. C'est une description de ces matins, de la mémoire dans le Bóveda. Si? C'est tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui va passer. Je ne sais pas si c'est une petite nouvelle d'une page. Je ne sais pas quel personnage va arriver. Samuel, Regina, tous les enfants. Je ne connais pas.
Ils arrivent. Mais on voit bien quand même qu'il y a comme une deuxième partie qui démarre à un moment donné, oui, où on quitte le camp et on arrive, oui, à la Fondation Cartier à Paris.
À Paris.
Comme une deuxième partie qui démarre, on, oui, est au présent tout, oui, d'un coup, si, dans la mémoire de ce narrateur. Si. Et là, vous décrivez l'avion, votre arrivée, si, la scène,
si,
comme si c'était une autre photographie.
Ah, si. J'écris comme... C'est très bien, vous. J'adore
vous
ce que vous dites.
Mais donc, ça veut dire que vous écrivez...
Comment ?
Visuellement, en fait.
Absolument. Absolument. Tout ce que j'écris, c'est comme une photographe.
Si? Donc, votre rapport au monde autour de vous est...
Visuel.
Mais on a l'impression que vous êtes attentif aux moindres détails, comme si vous étiez en hyper-vigilance.
Ah oui, je suis en vigilance.
Pourquoi ?
Parce que j'ai besoin de matériel.
Ça, c'est le matériel parce que vous êtes écrivain ou parce que vous avez un rapport au monde ?
Non.
Pour écrire. Qui est vigilant ?
Non.
Non, c'est parce que vous êtes écrivain.
Si. Si.
Et donc, vous vous êtes rendu compte que vous aviez ce rapport-là au monde et du coup, vous vous êtes dit, il faut que je l'écrive.
Si.
C'est ça ?
Si.
Et en même temps, dans votre livre, vous parlez de l'intervention de l'écriture onirique, puisque vous parlez des rêves.
Oui.
Vous dites, il y a des rêves, on le, oui, sait tous, il y a des rêves qu'on n'oublie jamais de, si, toute notre vie.
Si.
Et vous, vous dites que là, à nouveau, vous êtes encore en train de faire une photographie du rêve.
Si.
Ça, c'est le début de votre écriture, en général ?
Le début...
Le rêve. Le rêve aussi participe du début de l'écriture, pour
pas,
vous ?
Non. Pas au début.
C'est pas vrai, dans les loges, vous m'avez dit que vous aviez rêvé que vous...
Ah, début de le process. Ah, il y a 25 ans.
Eh ben oui.
Ah oui, pardon. Je pensais au début de livre, de chaque livre.
Oui.
Non. Mais oui, au début, oui. Oui.
Oui. Ah. Mais vous utilisez cet élément-là dans le livre. Hein. Vous dites à nouveau, le personnage...
Si, toujours.
Rêve.
Toujours.
Il raconte ce, oui, principe. Parce que dans votre livre, pardon, je parle un peu, dans votre livre... Vous racontez des éléments par-ci, par-là, qui sont des éléments que nous partageons tous. C'est-à-dire ce coffre-fort des souvenirs qui surgit de temps en temps, on l'a tous. Les rêves qu'on fait qui ont l'air plus vrais que la réalité, qui nous marquent à vie, on l'a tous. On en a tous eu au moins un. La conversation que nous n'avons jamais eue avec notre père, sans savoir ce qu'on mettrait dedans. On l'a tous. Cette conversation, elle est incroyable, la conversation de l'absence.
Ce qu'on ne dit pas.
Oui. Pourquoi vous avez mis cet élément dans ce livre? Pourquoi ce personnage, il a cette conversation avec son père? Comment elle est venue, cette conversation? Qu'est-ce qui est venu de votre père dans ce livre?
Oh là là, Sylvie, c'est trop. Question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un élément absolument intuitif. Dans mes process, c'est un process de jazz, de spontané,
oui, très spontanéité. Donc cette histoire du départ, elle vous a amené à parler de vos parents.
Absolument.
Pourquoi vous savez pas?
Je sais pas. Je veux raconter un petit peu le process d'écriture de ce livre.
Oui,
et de tout mes livres.
C'est votre tour, allez-y.
Cancion, deuil, monastère, le boxeur polonais, tout mes livres. Ok, en espagnol, parce que c'est très difficile, ça. Je veux dire en France, en français, et après en espagnol. Pendant que je suis en train de l'écriture, je ne sais pas qu'est-ce que j'écris. Alors, mientras estoy escribiendo, no sé qué estoy escribiendo.
Pendant que j'écris, je ne sais pas en fait ce que j'écris.
La mejor manera que yo tengo para explicar esto es como escribir en la oscuridad.
La meilleure façon pour moi de l'expliquer, c'est comme si j'écrivais dans l'obscurité.
Pendant un an, deux ans, trois ans, et j'écris des petites choses, des fragments. ¿Sí? Et je les laisse. Un paragraphe, un souvenir de mon enfance, le mort de mon grand-père. Mais je les écris comme petits morceaux, comme petites pièces. Non? Autonome, sans savoir qu'est-ce qu'il fait comme conjunto, comme...
Sans voir l'ensemble, en fait.
Exactement, l'ensemble. Et il y a un moment où la luz se prend.
Si? Et un moment est arrivé où ça fait lumière.
Oui, et j'ai vu... Ah, il y a un livre. Cette pièce, c'est. Alors, maintenant, c'est l'heure de l'ingénieur. Bon? Para poner orden a este chaos.
Et l'ingénieur a pris le dessus et il a mis en ordre tout ce chaos.
Ça ici, et ça ici. Ah, falta esto, una columna, esto sobra. Oui, ça c'est le deuxième moment. Le premier moment, c'est tellement intuitif, sans planification, sans... Une intention, sans intentionnalité. Non?
Et ça doit vous reposer alors d'écrire. Si vous êtes ingénieur,
oui,
et que vous préparez avec attention les choses pour qu'elles se combinent, le moment où vous écrivez,
non.
Si c'est intuitif, ça doit vous reposer.
Je les laisse. Non? Je travaille en petites pièces comme petites pièces, c'est tout. Sans l'intentionnalité de le relationner, de tout. Après, oui. Okay. Non? Quand je suis en train de ensembler cette mosaïque. Si? Et quand tu lis le livre, ils sont de petites pièces. C'est très fragmentaire. Il y a de sautes, non? Des saltos.
Des sauts.
Mémoire, présente, Paris, Berlin, l'enfance, mon frère.
C'est comme une conversation, un peu.
Si. Dans ma tête, non?
Oui.
Il y a des choses qui hacen carambola, que esto activa esto, que activa esto.
Il y a des choses qui s'activent entre elles.
Oui. Oui. Si? Alors, ça c'est plus compliqué ça, mais c'est très intéressant. Le projet, parce que Tarantule, c'est le septième livre du projet en marcha.
C'est un projet qui est déjà initié, en marche.
Oui. C'est le même narrateur qui s'appelle Eduardo Alfon, mais c'est pas moi. Non, il fume, je fume pas. Il boit, je bois pas. Il voyage beaucoup.
Vous l'aimez bien quand même ou pas?
Parfois.
Parfois non?
Non.
Parfois. Pourquoi?
Je sais pas. Il est insupportable parfois. Non? Et il a une voix très particulière, c'est pas la mienne de tout.
Elle est comment sa voix? Elle est plus aiguë, plus grave?
Il est plus indiscret. Oui, je suis très poli. Je suis très...
Lui, il est plus cavalier.
Oui. Oui, moi non.
Ça, alors...
Ah, si, 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 nous sommes très différentes. Et elle nació...
Il est né.
Il est né. Il y a... 2008, que j'ai publié le premier livre de ce projet qui s'appelle « Le boxeur polonais ». En français, « Le boxeur polonais ». C'était un très petit livre en espagnol. C'est 6 nouvelles racontées par le même narrateur, Eduardo Alfon. Si? Et il va né, c'est dit, il va né il va nadas.
Ah, il filait. Il tissait.
Pour des choses, mais principalement pour l'histoire de mon grand-père à Auschwitz, avec un boxeur. Un boxeur a sauvé la vie de mon grand-père à Auschwitz. Et le livre commence à raconter cette histoire de petit en petit, et à la fin, je raconte l'histoire. Ok. J'ai publié ce livre. En espagnol, c'est 6 nouvelles. En français, c'est 1. L'édition française de Le Boxeur, c'est mon préféré. C'est très, très belle, très petit. Et j'ai pensé, Sylvie, que ça s'est fini. Que cet narrateur, c'est tout, non? Avec cet autre Eduardo Alfon. Mais deux années plus tard, deux, une de ces nouvelles continue avec une autre, dans un autre livre. Je le tourne chapitre. Et continue l'histoire dans un autre livre qui s'appelle La Pirouette en français. C'est le deuxième. 2 ans plus tard, une autre nouvelle, c'est un chapitre dans ce monastère. Monastère, c'est le troisième. Sans planification, non, la petite histoire commence à grandir. Un petit livre se tourne un livre madre, un livre mère, non, qui da à luz, qui engendra. Empieza a engendrar otros libros.
C'est un livre mère qui donne naissance à d'autres livres.
À d'autres livres. Signor Hoffman, c'est le quatrième. C'est un voyage à l'Italie et à Pologne pour chercher la maison de mon grand-père. Deuil, après, Canción et maintenant Tarantul. Et des personnages qui sont petits dans un livre sont grands dans un autre. Une petite histoire ici, je continue là-bas. Le livre commence à parler avec eux. Si? Et c'est une grande nouvelle, je pense. Un grand roman, pardon.
Mais cet Eduardo Alfon qui écrit tout d'un coup sans vous prévenir, qui intervient tout d'un coup sans vous demander votre avis, est-ce que c'est une part sombre que nous avons tous aussi, qui se réveille à des moments? Est-ce que c'est une part d'obscurité?
L'autre Eduardo Alfon?
Oui, ce personnage-là, ce narrateur que vous n'aimez pas tellement, est-ce qu'il a une part obscure, finalement, que vous n'avez pas tellement envie de fréquenter?
Oui, oui, bien sûr. Si. Je ne sais pas s'il est un alter ego, comme on dit, un alter ego.
Un alter ego?
Ou je ne sais pas. Je le prête mon nom. Il est en train d'écrire sa vie, pas ma vie, la sienne, non? Vole choses de ma vie et le garde et le change. Pero yo creo que él está más perdido.
Lui, je pense qu'il est plus perdu que moi.
Está siempre perdido, ¿no? No sabe, sabe, tal vez, duda.
Il est toujours perdu, il sait pas, il doute beaucoup.
Beaucoup, 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 ¿no? Pero yo creo...
Au fond, c'est l'endroit que vous ne contrôlez pas.
Exacto.
Ouais. C'est l'endroit où vous n'êtes pas ingénieur.
Je suis pas en contrôle. Exactement. C'est lui, fait.
Dans ce livre, vous posez vraiment la question, ou bien c'est lui qui la pose, je ne sais pas, de la façon dont nous pourrions envisager de réfléchir à la transmission de l'histoire de nos ancêtres, qui est un thème assez important dans ce livre.
Dans ce livre, c'est très important.
À savoir, est-ce que nous devons éprouver la violence pour la comprendre, ou est-ce que lire la suffit?
C'est une très bonne question. C'est peut-être le plus important du livre, non, la question de la transmission de l'histoire à les enfants, de leur histoire. Non, c'est important pour moi. Era importante que Samuel, que este director, non, Samuel Bloom, apareciera en el presente. ¿Sí? Hay un reencuentro con Samuel Bloom en Berlín, en donde yo le pido que explique.
¿Sí? Alors, il était important que Samuel Bloom revienne au présent. Je le rencontre à Berlin et je lui demande qu'il me donne des explications.
De sept jours, non, de por qué hizo esta recreación. Ellos recrearon un campo de concentración. Reenact. Le mot en anglais, c'est parfait, parce que c'est un acte, non, c'est un théâtre. On va faire du théâtre d'un épisode historique pour didactique, pour. Comme fines didactiques, non, pour,
avec des objectifs, un oui, objectif didactique. Oui.
Comment on va transmettre l'histoire à les enfants? Et la façon de Samuel, c'est violence, avec des sangs, il dit, non? Avec des sangs. Oui. Et alors, j'ai publié le livre en espagnol hace año y medio.
Cela fait un an et demi que j'ai publié ce livre en espagnol.
Qui a d'ailleurs reçu le prix Médicis du livre étranger en 2024.
Ouais, c'est le petit. Ya perdí la cuenta de cuántos mensajes de gente he recibido.
Je ne sais plus combien de messages j'ai reçus.
De gente que pasó por lo mismo, de judíos que pasaron por la misma experiencia.
De personnes juives qui ont vécu la même expérience que moi.
En France, à Israël, tous les pays d'Amérique latine, aux États-Unis. Cette chose, cette jour de le livre, parece que fue una técnica didáctica muy usada en los años 80.
Il semblerait que ce soit une technique didactique assez utilisée, assez en vogue dans les années 80.
Oui. Y como idea, no es mala. ¿No? Usar el teatro para que los niños se acerquen al pasado, ce n'est pas une mala idée.
En soi, ce n'est pas une mauvaise idée d'utiliser le théâtre pour que les enfants s'en rendent compte.
Oui. Pero aquí exagerar, ¿no? Es el llevar esa idea a un plano de exagerado.
Mais là, c'était beaucoup trop exagéré.
Par exemple, un autre exemple. J'ai 2 ans, 11, 12, oui, aux États-Unis, sí, à l'école, et j'ai une maîtresse qui s'appelle Miss Flanagan, en anglais, américaine.
On la voit tout de suite.
Si?
On la voit tout de suite.
C'est Miss Flanagan.
Ah oui, on la voit.
Que nos hizo algo parecido. Lo recuerdo muy bien. Nos tuvimos que aprender el testimonio, le témoignage, de un esclavo.
Alors, j'avais une maîtresse aux États-Unis qui a fait un peu la même chose. On devait apprendre le témoignage d'un esclave.
Esclave afro-américain, non?
Afro-américain.
Oui. Y actuarlo.
Et on devait le jouer.
C'est la même chose, c'est la même idée.
Non, non, c'est pas, je suis pas d'accord avec vous. Ce que vous racontez là,
je sais,
c'est pas du théâtre, c'est de la torture.
C'est la torture.
Ça n'a rien du théâtre.
C'est pour moi le pire de cet épisode, dans le livre et dans ma mémoire, le réel. J'ai 13 ans, mais il y a un enfant de 5 ans, de 6 ans. C'était terrible, parce que ça a duré tout le jour. Et le moniteur nous a battus.
Non, mais cette journée, je peux vous dire que moi, je ne l'ai pas joué, hein, je ne l'ai pas vu au théâtre, mais votre livre, je vais m'en souvenir toute ma vie, c'est certain.
Oui.
Donc, je pense que l'écriture a quand même ce pouvoir. Enfin, c'est un vrai sujet, quoi. Est-ce qu'il faut l'appréhender physiquement ou seulement le lire? En tout cas, je peux vous dire que votre livre a quand même l'effet émotionnellement intense. Pas autant, probablement, ce que vous avez vécu, ça c'est certain, mais en tout cas, vous avez l'art de nous faire ressentir l'angoisse profonde de ces enfants. Mais en décidant que votre personnage allait retrouver ce directeur de camp des années plus tard, un peu par hasard finalement, et lui demander pourquoi, vous avez beau me dire que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit le livre, que c'est votre double...
Je l'écris.
Oui, oui, vous l'avez écrit quand même en disant que vous vous en excusez un peu, vous avez des trucs, vous n'avez pas des réponses. Vous trichez quand je vous pose une question qui ne vous plaît pas en me disant c'est pas moi. D'accord, j'ai bien compris.
Yo m'esconde dans
la tête. Oui, j'ai bien compris.
Je ne me cache pas derrière.
Mais, voilà. Mais est-ce qu'il vous fallait quand même, toutes ces années après, Eduardo Alfon, quelqu'un à qui poser la question? Est-ce que ça vous a manqué à vous?
Oui, mais littérairement.
Du point de vue littéraire.
D'accord. Comme histoire, non? Oui. Oui. Pas personnellement, mais dans l'histoire, oui. C'est nécessaire pour moi. De donner la parole à quelqu'un qui pense que la violence, c'est la solution. Il est en train de faire de petits soldats avec la haine. La haine et l'odio, c'est tout. C'est utiliser la haine de l'autre, pour créer de petits soldats. Alors, cette question, c'est très difficile de dire, pas pour le français, mais pour l'idée. Il y a deux personnes que je connais qui pensent comme Samuel Blum à Israël.
Il doit y en avoir plus que deux, hein, dans le monde. Ouais. Il doit y en avoir plus que deux. Mais, enfin, pardon, hein, il semble quand même que l'écriture soit un peu la planque pour vous.
Ça veut dire quoi, planque?
L'endroit où se cacher.
Ah.
Parce que...
Si et non. Si et non.
Expliquez-moi le si et non.
Parce que c'est le seul lieu, la seule place où je dis la chose que je ne dis pas dans la vie. Mais, je le dis dans une métaphore. Avec, dans, je ne sais pas, dans, et à travers une métaphore.
À travers une métaphore, moi, oui. Je m'exprime.
Oui, ce n'est pas pour tout le monde.
Il faut lire entre les lignes.
Il faut lire entre les lignes. Il faut déchiffrer.
Oui.
Oui. Et qu'est-ce que je veux dire?
Alors, ça ressemble beaucoup, excusez-moi, mais ça ressemble quand même beaucoup à quelqu'un, oui, qui ne sait pas quoi faire,
si,
du chagrin.
Si. Que no sabe qué hacer con la peine.
Oui, du chagrin.
Ah, de chagrin. Ah. Wow. Oui. Si. Je sais pas si c'est chagrin ou tristesse. Et oui, il y a une grosse tristesse dans le livre. C'est le plus près que j'ai été à écrire une histoire de terreur. C'est une histoire de terreur. C'est horrible. Non, pas horrible. C'est effrayante.
Oui.
Non,
c'est effrayant.
Effrayant, c'est le mot?
Oui, c'est le mot.
Mais il y a une petite lumière à la fin. Si ou non? Le dernier 100 pages, la dernière scène, pour moi, c'est la scène plus importante que j'écris à ma vie.
C'est la raison pour laquelle, au début de cet entretien, je vous ai demandé s'il y avait quelque chose de l'ordre, de l'espoir dans votre écriture.
Oui.
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, quand même.
Oui.
Comme un appel, vous le disiez, c'est comme une conversation à l'autre, mais finalement, ça veut dire que il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'oral parce qu'elles sont trop,
c'est
quoi, trop fortes, trop tristes,
trop directes, trop tristes, trop fortes, oui, et pas polies, non, et calan, yo lo digo en español, calan más profundo si son indirectas. ¿Sí?
Alors, c'est plus profond, hein, elle, on va plus en profondeur.
Si, si son en direct.
Si, voilà.
Si on dit les choses. Ese es el poder del arte. ¿No? Ese es el poder de la literatura.
C'est le pouvoir de l'art et de la littérature.
De le cinéma, non?
Mais d'ailleurs, c'est ce que vous dites dans votre livre. Vous parlez du pouvoir des mots.
Si.
Des mots violents, mais aussi des mots réparateurs.
Et de mots silencieux aussi.
Bien sûr, des mots que vous n'avez pas dit avec votre père.
Exactement.
Enfin, que votre personnage n'a pas dit avec votre père.
Oui, je vais te raconter l'histoire de mon grand-père. Parce que c'est très, très, très belle et très importante. Si? Le boxeur polonais. Mais je veux faire en espagnol. Bon, plus ou moins. Mon grand-père a survécu toute la guerre. 6 ans de camp. Le temps, nous sommes bien. Il a 19 ans. Si? Il a passé 6 ans dans beaucoup de camps de concentration. Il est de Lodz, de Polonais. Il a survécu. Il est arrivé au Guatemala et il a silencé tout.
Il a tout tu. Tout passé sous silence.
Exactement. Quand j'étais petit, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est, ce numéro. Il m'a dit, c'est mon numéro de téléphone. Tout le temps. Non? Avec une souris, un petit souris. C'est une petite blague. Mais ne demande pas, je ne veux pas parler. Pas. Il nous habló.
Il n'en a jamais parlé.
Hasta que je lui ai demandé, año 99, más o menos, que yo le pregunté a mi madre en qué campos había estado mi abuelo y ella no sabía.
Y en 1989, j'ai demandé a ma mère dans quel camp de concentration avait été mon grand-père y elle ne le savait pas.
C'est pas possible. Je lui ai demandé, on peut parler? Il m'a dit oui, assieds-toi. Il a sorti mettre une bouteille de whisky sur la table, 2 verres. Il a commencé à parler. Il a parlé pendant 5-6 heures, très, muy sosegado, muy calmado, très calme.
Sur un temps très calme.
Oui. Mais con mucho desorden.
Mais c'était confus.
Confus, le temps est après, avant, ici et là. Et dedans cette 5 heures, il m'a raconté une petite anecdote dans 1 minute du boxeur. Et je savais immédiatement que ça, c'est l'histoire. Oui. Alors, l'histoire de le boxeur. Mi abuelo estaba en Sachsenhausen, en Berlín. Hizo algo y lo mandaron a Auschwitz a morir.
Alors, mon grand-père était à Berlin.
Sachsenhausen. Sachsenhausen, c'est le nom de le camp. Sachsenhausen.
Et on l'a envoyé à Auschwitz.
Pour mourir.
Pour mourir.
Il savait qu'il va mourir au matin. Lo meten a un lugar que se llama el bloque 11 de Auschwitz. C'est un bloc 11.
On le met dans le bloc 11.
Va a tener un juicio en la mañana.
Il va être jugé
au matin. Et après, Gnadenschuss. Un tiro en la nuca.
Et ensuite, on lui tire dans la nuque.
En el famoso muro negro de Auschwitz.
C'est le fameux mur noir d'Auschwitz.
Il sait qu'il va mourir. Et il commence à prier le Kaddish. Wow. Le prix de la mort, non?
C'est la prière de la mort.
La prière de la mort. Et quelqu'un dans la prison l'écoute, il reconnaît l'accent de Lodz, et c'est le boxeur. A qui les Allemands le maintiennent vivo parce que les gusta verlo boxear.
Et si? Les Allemands le maintiennent, le gardent en vie parce qu'il sait boxer.
Mais il connaît tout dans le camp. Il est un expert d'Auschwitz. Et il se passe toute la nuit entraînant mon abuelo.
Et il passe la nuit à entraîner mon grand-père.
Mais non con los puños.
Pas avec les poings.
Pero con palabras.
Avec les mots.
Que decir durante el juicio y que no decir durante el juicio.
Qu'est-ce qu'il fallait qu'il dise pendant le jugement et qu'est-ce qu'il fallait qu'il ne dise pas?
Mi abuelo le hace caso.
Mon grand-père l'écoute.
Il se salva.
Et il est sauvé.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous...
Attends. Un petit... Le dernier de cette histoire, c'est très intéressant. Parce que c'est Scheherazade. C'est le pouvoir de la parole.
Mais
je lui ai demandé. Oitze, je l'appelle Oitze, que ça veut dire mon amour en yiddish. Oitze, qu'est-ce que le boxeur polonais t'a dit? Quels sont ces mots magiques qui t'ont sauvé la vie? Et elle me répondit,
Il se souvient pas.
Je sais pas si elle ne se souvient pas, s'il ne veut pas me dire si ce mot a fonctionné en ce moment-là, et c'est tout. Non? Mais c'est le pouvoir, non seulement de le mot, mais de le silence. Comme le cimetière avec mon père dans le livre, non? Comme le mot de la femme maya, que je ne comprends pas parce qu'il parle cachiquel, le langage maya.
Mais vous avez complètement hérité de ça, pardon, Eduardo Alphone, mais c'est tout à fait ça, parce que vous me racontez cette scène incroyable. Votre grand-père est devant vous en train de vous raconter pendant 5 heures une histoire effroyable, bouleversante. Mais vous ne me dites pas à ce moment-là, je ressens ça ou ça. Vous me dites, oh, et là, je vois une histoire. Mais donc, c'est vous, Scheherazade. Vous avez hérité de ce pouvoir de continuer avec les mots, d'inscrire l'histoire avec les mots.
Tu sais que je sentis dans ce moment-là, je sentis que mi abuelo me estaba heredando.
J'ai ressenti que mon grand-père me
héritait, me transmettait
quelque chose.
Non, pas quelque chose, mi herencia.
Mon héritage, il
vous a donné votre héritage.
Son histoire, c'est mon
héritage. Votre héritage.
Oui. Et pourquoi moi? Pourquoi il m'a parlé à moi et pas à ma mère, à mon oncle? Pourquoi moi?
Alors pourquoi vous?
Je sais pas.
Mais si, vous savez très bien pourquoi. Regardez.
Oui.
C'est là au bout de 7 livres. Voilà pourquoi.
Oui. Peut-être.
C'est vous. Parce que en fait, il vous a transmis quelque chose de cet ordre-là,
oui,
qui ne se dit pas dans une conversation normale,
okay,
comme vous vous dites dans votre livre. Okay. C'est une conversation sans mots.
Peut-être, oui. Alors, il est mort il y a 15 ans. Oui, 2 ou 3 ans après la publication de Le Boxeur Polonais. Il est très mal. Très mal.
Il a lu Le Boxeur Polonais?
Ma mère s'est le lu.
Ma mère lui a lu
le livre. Il est très mal. Les últimos 2 ans de sa vie.
Les 2 dernières années de sa vie. Ont été très dures.
Très mal dans la tête. Mais il est mort un vendredi soir. J'arrivais le samedi matin. Il est mort sur le lit. Très petit. Il faut attendre la fin de Shabbat pour moverlo, non?
Pour le déplacer.
Et j'ai vu mon livre sur la table. Son histoire reste. Il part, mais l'histoire reste. Et je crois que ça, c'est peut-être la raison pourquoi il m'a raconté l'histoire.
Alors, ça voudrait dire, Eduardo Alphone, que finalement, vous faites partie de ces gens qui ne savent pas pleurer autrement qu'en écrivant des livres?
Pardon ?
Ça veut dire que pour vous, pleurer, le fait de pleurer n'existe pas, sauf en écrivant des mots dans des livres ?
Oui, je pleure pas.
Ça veut dire ça ?
Oui, jamais. Je pleure pas, je sais pas pleurer.
Mais ça m'étonne pas.
C'est horrible parce que je garde tout, non ? Je sens tout, mais je pleure pas.
Mais vous écrivez des livres magnifiques.
Touchants ?
Eh oui, forcément.
Faut dire touchants ?
Bien sûr.
Oui. Tu sais, Sylvie, pour moi, le petit... Truco, en espagnol, la petite astuce de magicien. Comment on dit de magicien? Un truc?
Oui, le truc de magicien. Ouais.
De nommer le narrateur Eduardo Alphone, c'est un petit truc. Non? Et pourquoi je le fais? J'écris 5 ou 6 livres sans le savoir, mais j'ai une idée maintenant. de pourquoi je fais cette petite astuce, de cette petite picardie.
Oui, cette petite picardie. Oui, excentricité.
Merci, madame.
Non, c'est pas ça.
Il y a plein d'espagnols dans la salle. Hein. On est nombreux. Chouette. Olé.
Alors, c'est un roman. Oui. C'est de fiction. Ouais. Je te vends fiction. Ouais. Tu achètes fiction. On va signer un contrat. Page 5, tu l'oublies.
Page 5, je quoi?
Tu l'oublies. Tu l'avais oublié, le contrat. Et tu lis mes livres comme s'ils sont absolument réels.
Ben ça, c'est vrai.
Et je insiste, c'est des romans, c'est des fictions. Mais mes lecteurs oublient ça tout le temps.
Mais quand tu écris
si.
Des scènes qui sont si difficiles
si, par exemple,
pour ses enfants, pour ses enfants, ces scènes qui sont cette journée que tu racontes, si. Que vous racontez dans votre
livre. Ce n'est pas difficile d'écrire.
Ce n'est pas difficile d'écrire.
Non. Non.
Mais c'est difficile d'éprouver.
Pour vous ?
Pour toi ?
D'éprouver, ça veut dire quoi d'éprouver ?
Ressentir.
Oui. Oui, parce que je suis éloigné de cette scène. Je le décris, mais je ne suis pas dedans. Je me permito ser arrastrado por la emoción de esa escena.
Donc ça veut dire que pardon.
Je ne m'autorise pas à être. Entraîné par l'émotion.
Donc ça veut dire que le plus grand pouvoir des mots, pour vous, Eduardo Alfon,
si.
C'est celui de pouvoir mettre de la distance avec l'émotion.
Si.
Si. C'est ça l'écriture pour vous ?
Je ne sais pas si c'est l'écriture, mais c'est une façon de me garder, de me protéger, non ? De me alejo.
Alors quel livre vous ont réparé ?
Alors quel livre ?
Quel livre vous avez lu ?
Ah non, attends, comme lecteur. C'est différent.
Comme lecteur, c'est différent.
Absolument. Comme écrivain, je suis allongé, je suis en train de faire un travail objectif, non ? Travailler avec les langues pour arriver ensemble à une émotion. C'est une communion émotionnelle, ce que je veux.
Donc pour que moi, je sois ému, toi, tu es anesthésié.
Pas anesthésié. Non, parce qu'anesthésie, ça veut dire dormi. Non, ça veut dire
absolument.
Non, non, je sens, mais je pleure pas. Mais je sens, je sais la place où je veux arriver.
Est-ce que c'est effrayant de savoir faire ça ?
Non.
Est-ce que c'est génial de savoir faire
non.
ça ? Non plus.
Non. Non, non, non.
C'est quoi alors ?
C'est.
Une fatalité ?
C'est mon métier, c'est tout. C'est pas plus, c'est pas moins. Non, it's not more, en anglais. No es más que eso. Pero y tampoco es menos que eso. Es solo eso. Yo tengo que hacer mi trabajo y tengo que hacer mi trabajo bien para que sintamos algo. ¿Sí? C'est une manipulación emocional, ce que je fais. Non? C'est un voyage émotionnel.
Ce n'est que mon métier, ni plus ni moins, et je dois bien le faire.
Travailler avec les mots et les structures de cette image, de le voyage, pour arriver à une émotion. La dernière scène, c'est vital. Non? La dernière scène, pour quelqu'un qui a lu Monastère, la dernière scène, en el mar muerto, comment c'est le mar muerto?
La mer morte.
C'est très important. La dernière scène de deuil, dans un lac de Guatemala, c'est très important. Mais c'est très important comme émotion. Après tout le livre, après 100 pages de quelque chose qu'on va voyager ensemble, on va arriver à une émotion. Werner Herzog, le cinéaste, utilise une expression très, très belle. Il dit « en vérité de l'extase ».
La vérité de l'extase.
Pas en vérité de la raison, pas en vérité qu'on peut dire, mais une verdad de l'extase.
La vérité de l'extase.
C'est ça. Non? Extatique. Oui, oui. Émotionnel. Oui,
oui. Et alors, ce sera ma dernière question parce que c'est passé vite.
C'est tout.
Et c'est tout. Oui, c'est dommage. Hein. Va falloir revenir. La dernière question. Quand vous avez terminé Quand vous avez terminé l'écriture, dans quel état est-ce que vous êtes?
Pire que quand j'ai commencé.
Mieux.
Non.
Non.
Pire.
Pire.
Beaucoup, ah, pardon. Beaucoup pire.
Pire. Pourquoi?
C'est parce que c'est trop. Non, c'est trop de temps, c'est trop d'angoisse, c'est trop de savoir, d'incertitude, de m'approcher à des émotions sans le toucher, non, de me garder. C'est 2 ou 3 ans de... Oui, c'est pas un procès de compréhension, de balsame. Comment on dit ce balsame?
C'est pas un baume, c'est pas quelque chose qui répare.
Non, l'opposé, c'est le contraire.
Écrire, ça réveille le coffre-fort.
Oui, oui, ça réveille, ça veut dire
En fait, jusque-là, vos souvenirs étaient un
peu là.
Cachés, mais là, ils sont, oui, vraiment là maintenant.
Ils sont là.
Vous ne pouvez plus les oublier maintenant, c'est
non,
ça?
Non.
Alors qu'avant, vous pouviez.
Ils viennent.
Merci beaucoup, Édouard de Halphen, pour ce temps passé avec nous.
Merci,
et surtout pour vos livres. Merci beaucoup.
Merci.